vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Nous approchons de Noël et pour passer du temps avec la parenté, nous sommes plusieurs à vouloir nous déconnecter. Certains experts en appellent d'ailleurs à plus de sobriété numérique. Lâcher les écrans si présents dans notre vie s'avère très certainement une bonne idée pour notre santé, physique et mentale, et également pour la planète. La Commission de l'éthique en sciences et en technologie vient de publier un avis sur les effets environnementaux des technologies numériques au Québec. L'empreinte environnementale du numérique pèse lourd, très lourd. Un téléviseur nécessite par exemple près de 3 tonnes de ressources naturelles et c'est près de 100 kilos pour un téléphone portable avant utilisation, selon l'Agence française de la transition écologique, l'ADEME. Les fêtes sont une excellente raison de devenir sobre numériquement. Comment et pourquoi se déconnecter à Noël et jusqu'au jour de l'an peut-être? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous désirons parler de la sobriété numérique. Comment et pourquoi devrions-nous revoir la consommation et l'usage de nos appareils technologiques, à commencer par notre téléphone portable? J'en parle avec mes invités, avec Martin Deron, responsable du défi numérique à l'Université de Montréal et doctorant en environnement et numérique à l'Université Concordia. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Luc Bégin, président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour.
Bonjour.
C'est le temps de fêter et de poser un peu nos écrans. Bien sûr, je ne vous demande pas de lâcher complètement votre téléphone entre Noël et Nouvel An. Le temps est venu plutôt de prendre un temps pour réfléchir à combien les appareils numériques prennent de la place dans nos vies et pèsent sur notre environnement. Je vais commencer avec vous, Monsieur Duron. Rappelez-nous combien la technologie numérique est présente dans nos vies, peut-être?
Oui, elle est très présente. quand on parle de transition numérique aujourd'hui, on peut juste observer autour de nous à quel point on ajoute des technologies numériques dans à peu près toutes les facettes, tous les secteurs de nos activités, que ce soit nos secteurs collectifs. On utilise beaucoup plus de technologies numériques dans l'agriculture, le transport, la santé, dans nos approches au travail, bien sûr beaucoup plus de télétravail, mais également dans nos vies très personnelles. On utilise des technologies numériques, des appareils, des téléphones, des objets connectés, que ce soit pour communiquer avec nos proches, pour accéder à du loisir, même pour suivre notre propre santé ou nos relations intimes. On rencontre aujourd'hui beaucoup plus l'amour en ligne qu'ailleurs.
Je pensais aux outils, mais je pensais aussi à l'environnement numérique. On est plongé dans un environnement qui est tout à fait numérique et quand on parle de sobriété numérique, on se demande finalement un petit peu ce qu'il faut faire pour se libérer de tout ça.
Bien sûr. On se pose la question de la sobriété numérique en lien avec un constat qui est que au plus l'univers numérique grandit, au plus on a du numérique dans nos sociétés, au plus ça vient avec un certain nombre d'impacts sur la planète qu'on n'a pas tendance à voir nécessairement. Hein. On utilise des termes qui font beaucoup appel à l'abstraction quand on parle du numérique. Donc on va parler du nuage, on va parler de dématérialisation, on va parler de data, toutes des choses qui nous font penser que au plus on se numérise, au moins on a d'impact quelque part sur la planète. Et donc on a tendance à pas voir l'immense infrastructure matérielle sur laquelle toutes ces petites activités numériques reposent. Donc, ce constat de la sobriété numérique, en fait, il se fait par rapport au fait qu'on observe que, au plus l'univers numérique augmente, au plus il y a des impacts sur la planète. Puis, en matière de chiffres, au niveau des dernières estimations, on estimait que l'univers numérique représentait entre 3 à 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, déjà dans des proportions comparables, voire supérieures à des gros secteurs comme l'aviation civile ou les véhicules lourds. Et surtout que c'est un secteur qui augmente très rapidement et son empreinte environnementale grandit, elle croît également très rapidement.
Monsieur Bégin, pour vous, qu'est-ce que c'est la sobriété numérique?
La sobriété numérique, dans l'avis que nous avons publié, Regard éthique sur les effets environnementaux des technologies numériques, l'impératif de la sobriété numérique. Voilà. Alors, nous avons défini la sobriété numérique comme renvoyant à la modération et au discernement afin de rendre l'utilisation du numérique compatible avec les limites planétaires, tout en préservant, bien entendu, un accès équitable aux bénéfices que génère le numérique, parce qu'on n'en ira pas nier, évidemment, les bénéfices que ça apporte. mais de façon aussi à ce que ça puisse profiter tant à nos contemporains que pour les générations futures. Donc, pour moi, les éléments clés, c'est vraiment la question modération et discernement. Donc, il ne s'agit pas de s'opposer mm-hmm. aux usages du numérique, mais bien d'en promouvoir des usages qui soient mieux réfléchis et qui soient surtout davantage conscients des impacts environnementaux qui sont entraînés par ces usages, pour qu'on puisse en prendre de meilleures décisions.
Monsieur Deron, j'aimerais que vous me parliez justement des effets du numérique et de l'IA sur l'environnement.
Mmh. Il y en a beaucoup. Donc, je mentionnais très brièvement la contribution au changement climatique par les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est qu'une partie de ces impacts-là. En fait, il y a un certain nombre d'impacts qu'on pourrait qualifier de directs pour pouvoir fabriquer les dizaines de milliards d'appareils connectés que l'on a entre nos mains, mm-hmm. pour pouvoir connecter toutes les infrastructures de réseau, tous les centres de données, ben, c'est un certain nombre d'impacts directs sur la planète. Donc, les émissions de gaz à effet de serre, mais également une grande consommation énergétique, donc, qui est également en forte croissance en lien avec l'explosion de l'intelligence artificielle, notamment générative, dans la dernière année.
Les ressources naturelles aussi, j'imagine.
Absolument, les ressources. Oui,
l'approvisionnement.
Absolument, naturelles. On parle parfois de ressources abiotiques, donc toutes les ressources qui sont non vivantes, mais on va parler souvent des minerais, des ressources métalliques, de l'eau également. Mm-hmm. Bon, c'est pas quelque chose qu'on a tendance à voir tant que ça, mais en tout cas d'en être conscient, mais à travers la planète, l'industrie numérique demande beaucoup d'eau, notamment pour les centres informatiques, mais également pour la fabrication des appareils. Et ça se fait dans des zones où il y a déjà de plus en plus de situations de stress hydrique. Donc on voit des situations de plus en plus où on manque d'eau, c'est ça, et où on va avoir des formes de conflits d'usage entre l'industrie numérique sur place et d'autres usages comme l'agriculture ou le fait d'avoir de l'eau pour sa consommation personnelle. Donc il y a un certain nombre d'impacts directs, mais également des impacts indirects, hein, vous le mentionnez. On a des sociétés qui sont de plus en plus numérisées. Donc, quelque part, ben, les technologies numériques viennent aussi modifier nos autres activités et représentent un certain nombre et génèrent un certain nombre d'impacts indirects.
Donnez-nous un exemple de ça.
Oui, bien sûr. Ben, il y en a deux qui sont majeurs en matière d'impact environnementaux. Il y a le phénomène d'effet rebond, qui a d'ailleurs été documenté dans le rapport de la CEST.
OK. C'est quoi?
En fait, l'effet rebond, c'est un principe économique de base, mais où on observe que quand on déploie une technologie qui nous permet d'obtenir un gain d'efficience ou d'efficacité. Donc, par exemple, on va déployer la 5G dans le centre-ville de Montréal et on va se dire, cette technologie-là, elle est plus efficace. Ce qui fait que pour chaque donnée qu'on va envoyer ou qui va être communiquée, on va demander moins d'énergie pour le faire. Cependant, en déployant une technologie comme la 5G, mais c'est le cas de toutes les technologies, ben, on ne reste pas une demande égale. Au final, on déploie cette infrastructure, puis ça permet de développer de nouveaux usages qui, eux, vont nécessiter de nouveaux appareils pour être compatibles, ce qui fait en sorte que tout ce déploiement-là... Oui, on a une forme d'accélération. En fait, tout ce déploiement-là vient gommer en grande partie les gains d'efficacité qu'on aurait pu espérer obtenir, voire parfois rend la situation pire. Donc, parfois, la situation environnementale est pire après l'introduction de la technologie qu'avant, malheureusement, à cause de ces effets qu'on appelle effets rebonds.
Et l'autre exemple dont vous vouliez parler?
Oui, c'est un exemple parallèle d'accélération. Et puis, vous le mentionnez, en fait, le numérique, aujourd'hui, on n'est pas dans une approche de discernement, comme le mentionnait M. Bégin. On déploie des technologies numériques à peu près dans toutes les activités, voire toutes les activités, y compris les activités qui sont, on pourrait dire, les plus responsables aujourd'hui de l'insoutenabilité de nos modes de vie. On pourrait penser à toute l'industrie des énergies fossiles, bien sûr. On utilise beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui pour découvrir de nouvelles sources de pétrole, pour pouvoir accélérer les demandes de permis. On utilise beaucoup d'intelligence artificielle dans tout ce qui est la finance spéculative, toutes ces grandes activités. Donc, il y a un phénomène également d'accélération qui fait en sorte que toutes les utilisations bénéfiques des technologies numériques sont parfois gommées et parfois même contrebalancées par ces utilisations un peu plus indirectes et qu'on pourrait dire néfastes à des fins environnementales.
Monsieur Bégin?
Oui.
On parle souvent de dématérialisation des documents et aussi de tout mettre dans un nuage, hein, nos informations, mais c'est toujours du matériel. Pourquoi c'est important aussi de regarder peut-être le cycle complet du numérique, de la fabrication jusqu'à l'usage et pas juste la fabrication?
Oui, tout d'abord sur cette question de la dématérialisation, donc... Il en a déjà été question, effectivement. Je pense qu'au point de départ, on ne réalise pas suffisamment à quel point c'est un langage qui est trompeur. Et je pense délibérément trompeur, de toute façon. Et on est donc face à, en réalité, à des quantités énormes d'énergie qui sont requises pour faire fonctionner ces infrastructures et les centres de données. Donc, il il en a déjà été question. Quand vous me parlez des usages, est-ce que pourquoi il serait important de regarder le cycle complet du numérique, c'est que justement, on a tendance à s'en tenir uniquement aux usages, et ça nous donne un tableau qui est tout à fait faussé, qui est très parcellaire de la réalité. Parce que quand on pense en termes d'impact environnementaux, on doit avoir en tête à la fois donc la fabrication, qu'est-ce qui est requis. On parle beaucoup ces temps-ci des matériaux rares, hein, les terres rares, les matériaux qui sont requis pour produire ces technologies. Mais on doit penser aussi aux infrastructures qui sont requises pour les faire fonctionner. Alors, on a mentionné les centres de données qui sont évidemment les plus évidents, mais on doit penser aussi, par exemple, aux capteurs, aux antennes relais, aux câbles souterrains et sous-marins qui peuvent être requis pour permettre donc la mise en contact de ces technologies. Alors ça, c'est antérieur aux usages même. Et à l'autre bout du parcours, ben, évidemment, c'est l'ensemble des déchets qui sont produits et la gestion de ces déchets-là. Simplement, pour faire image, hein, on évaluait en 2022 qu'il y avait 62 milliards de kilos de déchets électroniques qui avaient été produits et dont seulement un peu plus de 22% avaient été correctement recyclés. Alors, lorsqu'on sait qu'on est face ici à une croissance en continu, donc énorme du numérique, ben, on voit le poids que peut représenter cette question des déchets, cette question de leur gestion et de la nécessité à ce moment-là de penser récupération, recyclage, réutilisation, oui. Qui deviennent véritablement des impératifs. Hein, si on se place justement dans une perspective de sobriété numérique, on ne peut pas être constamment dans la fuite en avant hein, avec ces développements qui apportent des bénéfices, mais qui en même temps, lorsqu'on regarde l'ensemble du cycle de vie, nous font réaliser qu'il y a des éléments extrêmement problématiques en termes d'impact environnemental.
Oui, Monsieur Deron, vous vouliez réagir.
Oui, absolument. Ben, réagir en faisant du pouce sur ce que Monsieur Béjean vient de dire. Bien sûr, toute cette matérialité qu'il décrit en amont et en aval, qu'on n'a pas tendance à voir et qu'on nous cache aussi de façon délibérée, elle est importante aussi à garder parce que c'est une grande partie de l'impact. En fait, en fonction des appareils qu'on va vouloir analyser, par exemple pour un téléphone intelligent de base, on estime qu'à peu près 80% des impacts environnementaux ont été réalisés lors de la fabrication. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre nous en place lors de l'utilisation pour réduire l'impact, mais si on ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé en amont puis en aval, qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone une fois que je le remets au recyclage ou que je le jette ou que je l'oublie dans mon tiroir, ben, quelque part on passe à côté des ordres de grandeur de là où il faudrait agir en matière de source de réduction.
Ouais, ou que la version 16 apparaisse ou 17 et puis là on s'en sépare, on ne sait pas pourquoi on s'en sépare parce qu'il marchait de toute façon, mais c'est ça.
Oui. Voilà cette question-là. A-t-on, je pense, dans une perspective de sobriété numérique, une des premières questions que le citoyen peut se poser, c'est en ai-je vraiment besoin? Et dois-je remplacer ces appareils à ce rythme-là?
Oui, tout à fait.
C'est un point de départ.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Il existe un projet qui s'appelle Chemin de transition de l'Université de Montréal avec Espace pour la vie, qui vise à rassembler la communauté universitaire et la société québécoise pour relever l'ensemble des défis complexes de la transition, dont le défi numérique fait partie. Monsieur Deron, pouvez-vous nous présenter peut-être très brièvement le projet et les trois piliers de la soutenabilité du numérique?
Oui, bien sûr. Donc le projet, c'est ça, vous l'avez très bien décrit, je vais pas plus l'expliquer, mais pour vous mettre un petit peu pour vous peut-être contextualiser un petit peu le projet, c'est on travaille sur ces questions depuis le début 2020 et c'est essentiellement c'est un projet collaboratif participatif, donc on a sollicité en fait par un certain nombre d'ateliers, d'activités. On a sollicité l'avis, l'expertise de à peu près 2000 personnes autour du projet depuis qu'on a commencé pour pouvoir concevoir en fait une trajectoire de transition à l'échelle du Québec pour pouvoir faire converger, dans notre cas, davantage la transition numérique et la transition socio-écologique. J'ai des collègues qui travaillent sur d'autres thématiques pour la transition socio-écologique.
Oui, mais pour le numérique.
Pour le numérique, j'y arrive. Donc, les trois grands piliers de notre vision, en fait, qui guident nos travaux, M. Bégin a mentionné la modération et le discernement. Nous, on a trois piliers qui sont très, très connexes. On parle bien sûr de sobriété numérique, donc mettre en place un certain nombre de leviers qui vont nous permettre de réduire l'empreinte environnementale des technologies numériques, à la fois du côté des appareils et de notre utilisation et des équipements et des infrastructures. On a un deuxième pilier qui s'intitule la priorisation collective des usages, donc un peu plus le discernement que M. Bégin a mentionné. Comment est-ce que si on doit réduire l'empreinte environnementale des technologies numériques à l'échelle du Québec, comment est-ce qu'on décide de quelque part, comment est-ce qu'on le fait ça?
Ben oui, comment est-ce c'est qu'on... ça la grande question.
C'est la grande question, mais on pense qu'on ce n'est pas une question qu'on se pose suffisamment. En fait, on pense qu'on manque aujourd'hui de lieux de délibération pour discuter de à quel point est-ce qu'on a envie de numérique dans nos vies, qu'est-ce qui devrait être considéré comme un accès au numérique qui serait essentiel, et donc comment est-ce qu'on garantit à toutes et à tous un accès à ce numérique essentiel. Puis à l'inverse, si on doit renoncer collectivement à des formes du numérique, que ce soit dans des secteurs ou des usages ou des appareils auxquels on dit ces usages, ces appareils, cette façon de faire du numérique n'est pas compatible avec nos objectifs de soutenabilité, comment est-ce qu'on y renonce collectivement, comment est-ce qu'on s'y prend, quelle valeur est-ce qu'on met derrière ces choix. Et enfin, le troisième pilier, c'est la question des modèles d'affaires. Aujourd'hui, on se rend compte que les modèles d'affaires du numérique nous poussent à peu près dans tous les secteurs, à cette accumulation perpétuelle. Vous le mentionnez, de changer son téléphone, même si on n'en a pas besoin, parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort. Donc, tant du côté des appareils, où on a des incitations très fréquentes à renouveler nos appareils, que du côté des services, où on a des services qui sont toujours plus lourds, qui nécessitent eux-mêmes d'avoir des ordinateurs et des appareils toujours plus puissants pour pouvoir les consulter. On a des modèles d'affaires des deux côtés qui sont basés sur une accumulation que nous pensons incompatible avec la transition socio-écologique à long terme.
Oui. Monsieur Bégin, nous vivons donc dans l'économie de l'attention et nous réalisons que nous sommes très dépendants du numérique. Alors, comment peut-on prioriser les bons usages et bonnes habitudes et prôner justement la modération du numérique?
C'est un grand défi. Oui. C'est un grand défi. Maintenant, la priorisation des usages est éventuellement quelque chose qui va s'imposer d'elle-même. Donc, aussi bien le voir en amont déjà. L'idée, essentiellement, je pense, quand on parle de priorisation des usages, c'est d'abord, on peut l'envisager en deux étapes. Dans une première étape, c'est l'évaluation de la pertinence et de l'utilité des usages numériques. Hein, ça, c'est la première des choses. Tant au plan individuel, on peut se demander, par exemple, si on a une recherche à faire, est-ce qu'on doit nécessairement utiliser les IA génératives? Par exemple, on sait que l'usage, par exemple, des IA génératives, la production d'une image par l'IA générative, donc les chats GPT, Gemini et autres, produire une image, c'est l'équivalent de la consommation d'énergie de la recharge complète d'un téléphone cellulaire. Ce qui est quand même énorme. Parce que si on le fait à très grande échelle, évidemment, c'est une croissance assez importante de la consommation. Toujours cette question-là, est-ce que c'est pertinent pour ce que nous avons à faire ou les objectifs que l'on recherche? Est-ce que c'est vraiment utile? Et ensuite, de regarder comment instaurer, et là, au plan collectif, une réglementation qui soit conséquente, qui restreigne à ce moment-là potentiellement certains usages au profit d'autres usages. Et d'ailleurs, sur cette question de priorisation des usages, je pourrais vous donner un exemple. Même si cette action n'a pas été nommée de cette façon, on peut penser à la décision de Hydro-Québec concernant la crypto-monnaie. Hein, vous savez, les bitcoins.
Oui.
On parle le temps. Déjà en 22, la Société d'État a demandé à la Régie de l'énergie d'approuver la suspension du processus d'attribution de puissance réservée à un usage cryptographique qui est appliqué aux chaînes de blocs. Autrement dit, les centres de données qui servent à justement au minage, donc à ces chaînes de blocs, dans le fond, de ne plus attribuer de blocs énergétiques pour ces centres-là. La raison étant justement la crainte que ça puisse mettre en péril la fiabilité, la sécurité d'approvisionnement du réseau dans les prochaines années. Parce que c'est une des industries, et là, M. Doron pourra me corriger, mais c'est probablement une des industries qui qui est la plus énergivore à l'heure actuelle en termes justement de ce qui est logé dans les centres de données. Mmh. Alors, on a par là, dans le fond, la société d'État a priorisé et s'est inscrit de manière implicite dans une perspective de priorisation des usages.
C'est un bon exemple.
Ce n'est pas infini, cette production d'énergie. Donc, on doit prioriser.
Entendu. Monsieur Deron, j'aimerais que vous nous parliez de la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, adoptée en France il y a 2 ans, qui met de l'avant justement des compétences en éco-responsabilité numérique. C'est quoi cette loi-là et est-ce que ça pourrait être inspirant pour nous?
Oui, bien sûr. C'est donc la loi REN qui a été votée en 2021, mais à la suite de beaucoup de mobilisation de la société civile, il y a eu beaucoup de groupes, à la fois du côté de la recherche, mais également de la société civile, qui se sont emparés de ces questions beaucoup de précurseurs, de manière assez tôt par rapport au développement de ces réflexions dans d'autres régions.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi-là?
Donc, cette loi, au final, qui a été votée, elle se concentre sur 5 grands piliers pour viser à l'échelle du territoire français la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, les 5 piliers. Il y en a un premier, je me souviens plus s'ils appellent des piliers, mais en tout cas 5 grands chapitres ou 5 grandes directions. Donc il y a un premier sur l'allongement de la durée de vie des équipements. La France est connue pour avoir mis dans sa loi le terme d'obsolescence programmée. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont en lien avec le fait de renforcer les mécanismes qui permettent de réduire les cas d'obsolescence programmée, donc dans les relations directement avec les fabricants. Il y a également beaucoup de choses qui sont en développement au niveau de l'accès à l'information pour les utilisateurs et les utilisatrices, notamment concernant les mises à jour. Parfois, on a des mises à jour sur notre téléphone, puis on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va faire à notre équipement, puis on se rend compte a posteriori que notre équipement, soit il rame un petit peu plus, soit on a des fonctionnalités qu'on n'avait pas prévues. Donc, il y a du travail au niveau de la réglementation qui est fait pour l'accès à l'information sur ces impacts-là. Il y a un deuxième chapitre ou une grande direction au niveau de la stratégie numérique responsable au niveau des territoires. Donc, la France se divise par communes notamment, et toutes les communes de plus de 50 000 habitants doivent se doter d'une stratégie numérique responsable à l'échelle de son territoire, qui inclut notamment des stratégies de récupération de la chaleur des centres de données. On a une troisième grande direction au niveau de la sensibilisation et de la formation aux enjeux de sobriété numérique, d'impact environnemental des technologies numériques. Le fait qu'on n'en parle pas tant que ça aujourd'hui, donc de pouvoir développer davantage de modules au niveau des formations scolaires et de la formation pour adultes. Ensuite, il y a un certain nombre d'initiatives pour favoriser les usages vertueux, comme ils les appellent, des technologies numériques. Donc, il y a l'ADEME qui est l'ADEME, une agence du gouvernement français a développé récemment, en partenariat avec d'autres, un référentiel pour l'éco-conception de services numériques. Donc, comment est-ce qu'on conçoit, on développe des services numériques qui visent la réduction de leur propre empreinte et qui sont destinés à des usages utiles. Et enfin, il y a un certain nombre de stratégies pour réduire la consommation énergétique des centres de données. En France, il y en a également de plus en plus, et notamment avec des incitatifs économiques comme... On pourrait le faire potentiellement avec Hydro-Québec, avec une réduction ou une tarification privilégiée pour des centres de données qui auraient justement des stratégies d'efficacité énergétique au sein de leurs opérations.
Suivant les usages, finalement. Mm-hmm. Monsieur Bégin, votre commission a dressé dans cet avis une liste de 16 recommandations de sobriété numérique à destination des décideurs publics. Évidemment, je ne vais pas vous demander de me détailler les 16 recommandations, mais j'aimerais que vous me souligniez peut-être les points pour sensibiliser les décideurs et les citoyens à cette sobriété numérique tant désirée.
Concernant les citoyens spécifiquement, oui.
Oui, par exemple.
Par exemple, concernant les citoyens, c'est clair, il y a toujours la possibilité de campagne de sensibilisation et d'information quant aux effets positifs, mais aussi négatifs du numérique, façon à permettre de meilleures décisions. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui va de soi. Aussi, je pense à un point important, l'intégration des considérations environnementales liées au numérique dans l'ensemble des programmes scolaires. Parce que on a à l'heure actuelle, les jeunes, on sait bien, vont utiliser beaucoup le numérique. Ils sont nés littéralement dans le numérique. Et il y a quelque chose là d'absolument important, selon nous, de faire en sorte que les conscientiser à de bons usages, de meilleurs usages, justement, du numérique. Concernant les décideurs publics, bien évidemment, on a tout un ensemble de recommandations, mais il y a des choses pouvant aller, par exemple, est-ce qu'il serait possible d'adopter des meilleures pratiques en matière de sobriété numérique au sein de l'ensemble de l'administration publique québécoise?
Ah oui, commençons par là.
Déjà, c'est quelque chose d'important. Ben, c'est un exemple important. Et aussi aller, par exemple, jusqu'à intégrer des critères environnementaux et sociaux dans les marchés publics eux-mêmes. C'est-à-dire en faire vraiment des critères pour des attributions de contrats. Donc, de considérer ces éléments-là comme étant importants. Et donc, on montre par là qu'on priorise cette sobriété numérique. Et aussi, par exemple, de rendre obligatoire la divulgation du plus grand nombre possible de données essentielles à l'évaluation des impacts environnementaux du cycle de vie des technologies numériques. Parce qu'on sait à l'heure actuelle que justement, on manque beaucoup d'informations à cet effet. Il y a plusieurs actions donc de ce type. Comme vous dites, nous avons 16 recommandations. Il y a plusieurs actions de ce type donc qui sont indiquées dans le rapport. Bien entendu, j'invite vos auditeurs et auditrices là,
On mettra le lien sur notre page. Monsieur Deron, je vais terminer avec vous. Donc, comment sensibiliser un peu les jeunes générations? Je sais qu'il y a une nouvelle formation sur l'éco-responsabilité numérique proposée à l'Université de Montréal depuis cet automne, très rapidement. Est-ce que c'est en les formant à l'école?
Alors, c'est pour moi deux choses différentes. La formation qu'on a développée à l'Université de Montréal, c'est une formation continue plutôt pour des professionnels dans différents secteurs d'activité, mais des personnes qui aimeraient développer leurs compétences pour pouvoir, par exemple, réduire l'empreinte environnementale des technologies numériques au sein de leur organisation, mener des campagnes ou développer des feuilles de route pour réduire cette empreinte, aller vers davantage d'éco-conception.
Ils sont déjà sensibilisés, c'est ça?
Effectivement, c'est des personnes déjà sensibilisées, puis souvent des professionnels au sein des organisations, soit en lien avec les technologies numériques, soit plutôt en lien avec le développement durable au sens large, ou la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, on a développé cette formation parce qu'effectivement, on voyait qu'il y avait un manque pour se former à ces questions-là. Mais en parallèle, vous avez raison, il ne faut pas s'arrêter là, bien sûr. Il y a un certain nombre de... La sensibilisation doit être beaucoup plus large. Je pense que c'est bien qu'on en parle de plus en plus. Ici, par exemple, aujourd'hui, avec vous à la radio, on en parle un petit peu plus dans l'actualité. Mais ça reste quand même très minoritaire. Donc je pense effectivement que passer par les programmes scolaires est une étape essentielle. On parle beaucoup de littératie numérique et il y a beaucoup d'efforts qui vont en ce sens. Puis je pense que la question de l'éco-responsabilité numérique pourrait faire partie intégrante de cette littératie numérique. Comprendre ce qu'est le numérique, ça implique également comprendre ce qu'il génère comme empreinte, mais également ce pourquoi il est utile et ce pourquoi il est peut-être moins utile. Je pense que ça participe quelque part à démystifier un petit peu de ce qu'est le numérique, de comprendre son volet environnemental également.
Entendu. On va se terminer là-dessus. Donc, on était en compagnie de Martin Deron, responsable du défi numérique à l'Université de Montréal, et de Luc Bégin, président de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Il y a un avis qu'on met Donc, on mettra le lien sur la page pour lire cet avis bien intéressant. Merci. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche Fanny Robatcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens.